Bonjour à chacun, chacune. Merci. La famille française typique. À quoi elle ressemble, cette famille française typique? Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'elle a pas mal évolué ces dernières années. Voilà quelques chiffres livrés par l'INSEE, suite à une enquête de l'INSEE, pour se faire une meilleure idée de la famille française typique aujourd'hui. D'abord, 2 Français sur 3 sont en couple. 7 couples sur 10 sont mariés. 1 enfant sur 4 ne vit pas avec ses deux parents. 1 famille sur 5 est une famille monoparentale ou avec un parent célibataire qui élève seul ses enfants. Et dans ces familles monoparentales plus vulnérables, 1 enfant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Voilà la famille typique française, si on peut dire, si on se contente simplement de chiffres en tant que tel. Pourquoi je vous parle de famille ce matin? C'est tout simplement parce que le texte sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui évoque ce sujet, évoque la famille. La grande idée, la grande doctrine avancée par le texte que nous allons étudier ce matin, c'est que l'Église, et on l'a entendu dans quelques prières, eh bien c'est comme une famille. L'Église, c'est une famille. Et dans ce cas-là, une famille unie, une famille solidaire. Ce matin, nous allons donc poursuivre notre cheminement dans la première épître de Timothée, que nous avons débuté depuis quelques semaines maintenant. Et nous arrivons maintenant au chapitre 5, du verset 1 au verset 16. Et ce texte, de ce chapitre 5, peut être divisé en 2 grandes parties, on peut ainsi dire. D'abord, dans un premier temps, Paul va affirmer une doctrine importante. L'Église, c'est une famille. L'Église est comme une famille. Et dans un second temps, Paul va prendre le temps d'exposer un cas concret dans l'Église d'Éphèse au 1er siècle, dont Timothée avait la charge, en lien avec cette doctrine. Et ce cas concret, c'est tout simplement la gestion de la situation des veuves dans cette assemblée. Et on y reviendra sur ces personnes, ces veuves. On va essayer de la musique qui s'arrêtait. On va poursuivre. Merci. Le texte, 1 Timothée 5, versets 1 à 16, que je vous propose de lire soit dans vos Bibles, soit qui sera affiché aussi sur le PowerPoint. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 à 16, et gardez bien le texte devant vos yeux par la suite. Paul commence en donnant des conseils donc à Timothée. « Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ces avertissements afin qu'elle mène une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être âgée d'au moins 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds des membres du peuple saint, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les instruire car il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ, elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. C'est pourquoi je préfère nettement que de jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien leur ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a hélas déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elles subviennent à leurs besoins et que l'Église n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans les 2 premiers versets de ce passage, Paul donne des recommandations pratiques à Timothée sur la manière dont il doit se comporter envers quatre catégories de personnes différentes au sein de l'Assemblée. Envers les hommes âgés, il doit se comporter comme avec des pères. Envers les jeunes hommes, comme avec des frères. Envers les mères, envers les femmes plus âgées, comme envers des mères. Et envers les femmes plus jeunes, comme envers des sœurs. Bref, la meilleure manière, selon Paul, d'agir avec les différents groupes d'âge dans l'Assemblée consiste tout simplement à les traiter comme des membres de sa propre famille, comme des mères, des pères, des frères, des sœurs. Et en expliquant cela à Timothée, Paul donne trois manifestations simples d'un tel comportement. Première manifestation, ne pas rudoyer. L'idée, c'est de s'adresser avec respect à un chrétien plus âgé. Alors cela ne veut pas dire de ne pas l'avertir s'il fait fausse route spirituellement. Il faut savoir condamner un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu chez un chrétien plus jeune comme chez un chrétien plus âgé. C'est notre rôle dans l'Église d'avertir, de condamner un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais cela doit se faire sans brutalité, mais plutôt en faisant preuve de respect, de douceur, comme si on s'adressait à un parent. Je ne vais pas aller voir mes parents en leur disant « ça va pas ». Je vais avoir du respect pour mes parents. Et de la même manière, la Bible nous encourage à avoir du respect pour les chrétiens plus âgés parmi nous. La relative jeunesse de Timothée, souvent on a une mauvaise idée de la jeunesse de Timothée, il a 35 ans à peu près. Je ne sais pas si on peut encore considérer comme jeune, mais en tout cas, il a 35 ans à ce moment-là. La relative jeunesse de Timothée pouvait l'entraîner à faire preuve d'une impatience exagérée. Et il devait éviter cela. Il devait conserver du respect, de la douceur envers chacun, et notamment envers les plus âgés, même s'il fallait être ferme aussi par rapport à la foi. Deuxième manifestation très simple, c'est l'encouragement. Timothée doit prendre à cœur d'encourager les uns et les autres à avancer sur le chemin de la foi. Je ne suis pas sûr que l'encouragement soit un gène très francophone. Souvent, on est là à jeter les pierres plutôt qu'à encourager. Mais en tout cas, c'est ce que Paul dit à Timothée. Encouragez-vous les uns les autres dans votre chemin de foi. Et enfin, troisième manifestation simple de ce comportement, c'est le fait d'agir en toute pureté vis-à-vis de plus jeunes sœurs, d'agir en pureté. Et il y a eu malheureusement tellement de manquements à ce niveau-là dans les églises. Timothée doit se montrer vigilant pour qu'aucune situation tendancieuse ne puisse se développer, ni même ne soit suggérée, supposée. Il faut faire attention dans nos rapports les uns avec les autres. La doctrine donc importante de ce passage est évidente, et je l'ai déjà dit. L'Église doit être tout simplement comme une famille spirituelle. Chaque membre de l'Église est comme un père, une mère, un frère, une sœur, un fils, une fille. C'est ça qui devrait définir nos relations les uns avec les autres, une relation familiale. À notre époque, et on l'a vu un peu au niveau des statistiques, vu malheureusement le nombre de familles dysfonctionnelles, de familles décomposées, recomposées, etc., j'imagine bien que selon votre propre histoire familiale, l'image de la famille n'est pas forcément très bonne pour chacun d'entre nous ce matin. Parce que nous n'avons pas vécu toujours une vie de famille idyllique, heureuse, avec deux parents qui sont là et présents pour nous. Vous n'avez pas forcément une bonne image de la famille, mais il faut bien avoir en tête que quand la Bible évoque l'Église comme une famille, il s'agit d'une famille unie qui avance d'un même pas. Il s'agit d'une famille attentive aux besoins des uns des autres. Il s'agit d'une famille solidaire qui prend soin les uns des autres. Et c'est justement ce dernier aspect, la solidarité familiale, que Paul va mettre en avant avec l'exemple des veuves au sein de l'Assemblée. Pour Paul, l'Église est comme une famille. Et une famille, c'est censé être solidaire. Et donc une Église, de la même manière, c'est censé être solidaire les uns avec les autres. Mais avant de continuer avec l'exemple concret de ces veuves, de cette solidarité envers les veuves, je veux juste m'arrêter 2 minutes sur cette idée incroyable. L'Église, c'est une famille. Et la question que je me pose est toute simple. Est-ce que c'est une réalité pour moi, pour toi, ou une simple idée vaseuse ? Cette idée que l'Église est comme une famille, est-ce que c'est une réalité ou une simple idée vaseuse dans nos vies, aux uns et aux autres ? Comment le savoir ? En fait, c'est relativement simple de savoir si c'est une réalité dans ta vie ou si c'est une simple idée vaseuse pour toi. En fait, simplement, je pense qu'une manière très concrète, notre degré de compréhension de cette doctrine, notre degré de compréhension du fait que l'Église est une famille, est intimement lié à notre degré d'investissement dans notre famille spirituelle, dans l'Église. Plus je serai conscient que l'Église est ma famille, et plus je m'impliquerai en son sein. Si tu te contentes d'un culte, sans jamais n'avoir de relation avec personne, sans jamais aider d'une manière ou d'une autre, alors que tu le veuilles ou non, tu témoignes que dans ta vie, l'Église comme une famille, c'est une simple idée vaseuse, rien de plus. On est en 2019. Pour ceux qui ont vécu toute l'année 2018 dans nos locaux, dans notre assemblée plutôt, je devrais dire, faites un bilan. Combien de fois vous avez eu à votre table des membres de l'Église avec vous ? Combien de fois vous avez eu des membres de l'Église à votre table qui ne pouvaient pas vous le rendre ? Combien de fois avez-vous retroussé vos manches pour aider pratiquement dans l'Assemblée ? Combien de fois avez-vous pris du temps pour discuter, pour prier ? Faites le bilan rapidement dans votre tête. Ce bilan-là démontre si vous avez réalisé pleinement que l'Église est une famille ou s'il s'agit simplement d'une vague idée vaseuse. Je suis peut-être dur dans ce que je dis, mais c'est une réalité. Voilà ce qu'écrit Francis Chan à ce propos. Il témoigne. Il y a quelque temps de cela, un ancien membre de gang est venu à notre assemblée, notre église. Il était tatoué de la tête aux pieds et d'un abord rude, mais il était curieux et voulait voir à quoi ressemble une église. Il avait une vraie relation avec Jésus et semblait assez bien s'impliquer dans l'assemblée. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne venait plus à l'église. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué. Je m'étais fait une mauvaise idée de ce à quoi l'église allait ressembler. Quand j'ai rejoint l'assemblée, je pensais que ce serait comme entrer dans un gang. Vous voyez, dans un gang, on n'est pas simplement gentil l'un envers l'autre une fois par semaine. On était une famille. En l'écoutant, Francis Chan qui dit, j'étais mort de honte. Je savais que ces attentes correspondaient à ce que l'Église était censée être. J'étais attristé à l'idée qu'un gang dépeigne mieux l'engagement, la loyauté, la famille que ne le fait une Église locale. Est-ce que nous sommes un gang ? Est-ce que nous sommes une famille ? Aujourd'hui, trop de chrétiens semblent croire que l'Église est secondaire dans leur vie spirituelle. Et c'est très en lien avec notre culture individualiste occidentale. Le salut est individuel. Alors à quoi bon l'Église ? C'est une erreur grossière. L'Église est au cœur, au centre du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour chacun d'entre vous. L'Église, c'est la famille où je peux être béni spirituellement car je serai entouré par des frères et des sœurs. Et c'est aussi l'endroit où je pourrai bénir spirituellement d'autres en les entourant à mon tour. C'est du donnant-donnant. Je suis là pour être béni par ceux qui composent l'Assemblée et je suis là pour bénir ceux qui la composent. À quel point est-ce que tu cherches à être béni et à bénir ton assemblée locale, ta famille spirituelle ? On continue avec le verset 3, avec cet exemple concret de la situation des veuves dans l'Église au 1er siècle à Éphèse. Donc après avoir explicité le fait que l'Église doit être comme une famille, Paul illustre la manière dont ce principe doit se vérifier, notamment au niveau de la solidarité les uns envers les autres, avec un exemple très concret, celui des veuves dans l'Église. Et à cette époque, les veuves étaient très souvent parmi les personnes les plus vulnérables et pouvaient être dans une situation de très grande précarité matérielle parce qu'elles n'avaient plus de conjoint et souvent plus de moyens de subsister pour beaucoup d'entre elles. D'ailleurs, il faut savoir que le nom même de veuve signifie en grec « celle qui est dépouillée ». Celle qui est dépouillée peut-être d'un conjoint notamment, mais celle qui est dépouillée aussi financièrement. Et John a lu au début du culte ce passage du psaume 68 qui dit que Dieu est le défenseur des veuves. Dieu est le défenseur des veuves. Et donc, Dieu a un regard particulier sur les veuves et par élargissement sur les gens qui sont dans des situations plus précaires, plus difficiles. Dans ce passage, on voit que Paul évoque cette situation des veuves sous deux angles différents. D'un côté, il évoque ce que Dieu attend de la part de l'Église en faveur des veuves, et de l'autre, il évoque ce qu'il attend des veuves en elles-mêmes. Les deux vont de pair. Dieu attend que l'Église réagisse d'une certaine manière envers les veuves, mais Dieu attend aussi que les veuves réagissent d'une certaine manière. D'abord, ce que Dieu attend en faveur des veuves. Paul recommande à Timothée de se préoccuper des veuves dans l'Église ou dans d'autres traductions, de les honorer, c'est-à-dire de leur montrer du respect, de la compassion. Et pour honorer les veuves, Paul donne deux indications importantes. D'abord, la responsabilité de s'occuper des veuves est avant tout une responsabilité de la famille proche. C'est d'abord et avant tout la responsabilité de la famille proche, physiquement. Il revient sur ce sujet à trois reprises, au verset 4, 8 et 16 dans notre texte. Et c'est seulement dans un second temps, si une veuve n'a plus de famille proche qui puisse s'occuper d'elle, que c'est à l'Église de se préoccuper d'elle. Et au verset 4, Paul est très clair, on peut relire ce verset, verset 4, qui dit « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. » Paul est très clair, si une veuve a de la famille, c'est à celle-ci de prendre en charge cette veuve. La solidarité matérielle, c'est d'abord le devoir de la famille proche avant toute chose. Et Paul donne trois arguments dans ce verset forts pour expliquer cela. D'abord, la solidarité matérielle avec sa famille est un acte de piété. En prenant soin d'une veuve, la famille continue à honorer ses parents comme le demande le cinquième commandement. Honorer ses parents, c'est valable toute une vie. Ce n'est pas parce que je ne suis plus un petit enfant, que maintenant j'ai 40 ans, que je ne dois plus honorer mes parents. J'ai toujours ce même devoir d'honorer mes parents. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. On est tous des adultes vaccinés, majeurs ici. Et on a tous à honorer nos parents. La solidarité matérielle avec sa famille est aussi un acte de restitution. Paul est en train d'expliquer que dans le déroulement ordinaire de la vie, il y a un temps où les enfants dépendent du soin de leurs parents, et plus tard, très souvent, un temps où ce sont les parents qui dépendent des soins de leurs enfants. Ainsi va la vie. Et Paul utilise une expression très significative ici. Il dit qu'il faut s'acquitter de sa dette envers ses parents. S'acquitter de sa dette envers ses parents. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de renvoyer l'ascenseur, d'une certaine manière. Alors, si jamais vous posez la question de savoir à quel moment je me serais acquitté enfin de la dette envers mes parents, sachez que selon des études, un enfant coûte entre la naissance et ses 18 ans, vous savez combien ? 150 000 euros. Ça fait une jolie somme. Hein. Depuis, je ne regarde plus mes enfants de la même manière. Je dis, ah quand même. Mais c'est une réalité. Il y a un investissement des parents qui est énorme envers leurs enfants. Et de la même manière, Dieu nous demande aux enfants de s'investir auprès de leurs parents par la suite. Troisième raison, très simple, la solidarité matérielle avec sa famille est un acte agréable à Dieu. Un acte agréable à Dieu. En prenant soin des veuves, nous faisons tout simplement plaisir à Dieu. Et cela devrait être suffisant pour nous motiver dans ce sens-là. Une dernière chose à noter. Il ne semble pas y avoir de degré de solidarité selon si nos parents se sont bien occupés de nous ou pas. Il n'y a pas de lien là. Ce n'est pas parce que mes parents sont bien occupés de moi que je peux être solidaire d'eux, mais s'ils s'étaient moins bien occupés de moi, je n'ai pas de nécessité d'être solidaire d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous demande en tant que chrétiens d'être solidaires de nos parents s'ils ont été de bons parents ou s'ils ont été de moins bons parents envers nous. On est solidaires dans tous les cas, il semble. Au verset 8, Paul réaffirme la même idée. Il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un incroyant. » Paul y va très fort là, très 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 fort. Au verset 4, il affirmait un principe positivement. Et au verset 8, il le reformule de manière négative. Ne pas être solidaire de sa famille, c'est tout simplement être pire qu'un incroyant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité des incroyants s'acquittent naturellement de ce devoir, pour beaucoup d'entre eux. Et cela devrait être d'autant plus vrai parmi les chrétiens, puisque Dieu nous le demande. Dieu nous demande d'être solidaires. Par conséquent, si nous refusons d'être solidaires, alors que nous le pouvons, nous nous comportons comme des gens pires que des incroyants. Paul poursuit au verset 3. Dans le cas d'une veuve réellement privée de soutien, c'est-à-dire sans soutien familial proche, c'est-à-dire n'ayant aucune famille proche qui puisse s'occuper d'elle, alors c'est à l'Église de manifester ce soutien, cette solidarité envers elle. Et dès l'origine de l'Église, le soutien des veuves a été une préoccupation importante. Et on le voit encore une fois dans le texte que Jonathan a lu en début de culte. Il est dit que Dieu accorde aux gens seuls une famille. La vision de Dieu à travers l'Église, c'est d'accorder une famille à des gens qui sont seuls aussi. Donc cette préoccupation est importante dans l'Église. Et ce fut en particulier pour elle, par exemple, que l'Église a institué ce qu'on peut considérer comme les premiers diacres en acte 6. On repose ce fondement. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de quoi ? De ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. » Et ces sept hommes sont les prémices, d'une certaine manière, des diacres. Et pourquoi ils ont été institués ? Au départ, pour un problème de solidarité envers les veuves, problème de solidarité envers les plus faibles dans l'Assemblée. 30 ans plus tard, 30 ans après cette première église de Jérusalem, dans l'église d'Éphèse, dont Timothée a la charge à ce moment-là, ce ministère auprès des veuves gardait toujours la même importance. 2000 ans plus tard, au sein de notre Assemblée, nous devons avoir le même souci pour les plus démunis parmi nous. Il peut s'agir de veuves, il peut s'agir d'autres personnes qui sont dans des situations de précarité. Et nous avons un souci à avoir par rapport à ces personnes. C'est un principe permanent. L'Église a responsabilité des membres les plus faibles qui sont dans le besoin en son sein. Et c'est dans ce cadre en particulier qu'est née l'association Grâce, qui, je rappelle, veut dire groupe de réflexion et d'action chrétienne évangélique, et qui fait un service de veille au sein de notre Assemblée aussi, pour conseiller, soutenir des personnes qui sont dans une situation précaire, diverses manières. Et c'est l'occasion aussi de remercier Joe, Daniel, Michel, Nathalie, qui font partie de ce groupe, et qui, dans leur service, réalisent un service qui est à la fois discret et efficace aussi. Et c'est un bonheur, une grâce de les avoir. Et peut-être qu'on ne prie pas suffisamment aussi pour ce service aussi, pour ce qui est fait au sein de notre Assemblée, par ce biais-là. Pour résumer, la solidarité avant toute familiale, dans le cercle du foyer, mais aussi communautaire dans le cercle de l'Église, c'est tout simplement quelque chose qui est censé couler de source dans la vie d'un chrétien. On n'a pas 1000 questions à se poser pour savoir si on est solidaire ou pas de notre famille proche ou de la famille élargie à travers l'Église. Dieu nous demande d'être solidaire. On n'a pas de questions à se poser là-dessus. Mais Dieu, s'il s'attend à une solidarité particulière de la famille proche et de l'Église en faveur des veuves, attend aussi certaines choses des veuves elles-mêmes. Au verset 5, il est écrit « La veuve qui est restée vraiment seule et privée de soutien, donc celle qui n'a plus de famille proche, pour ainsi dire, met son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. » Puis, plus loin, verset 6, « Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ses avertissements afin qu'elle mène une vie irréprochable. » On voit que Dieu attend d'abord d'une veuve qu'elle mette son espérance en lui seul et recherche sa face dans la prière au lieu de chercher les plaisirs de ce monde d'une manière ou d'une autre. Et comme cela a été demandé précédemment des anciens, au chapitre 3, verset 2, les veuves, de la même manière, doivent mener une vie irréprochable, verset 6, c'est-à-dire avoir une conduite à laquelle il n'y a rien à reprocher, à redire. Si au lieu de mener cette vie irréprochable, une veuve vit de façon mondaine, immorale, alors la condamnation est terrible. Elle est déjà morte, quoique vivante. Elle est toujours vivante physiquement, mais son comportement dénote qu'elle est morte spirituellement. C'est une réalité pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. J'imagine que vous aussi, vous avez rencontré des personnes qui attendent la retraite avec impatience dans vos travail respectif, dans le milieu professionnel respectif. Ils attendent cette retraite pour pouvoir faire de grands voyages, profiter de tous les plaisirs de la vie, etc. J'ai quelques collègues qui sont comme ça. Ils font plein de projets pour après le travail, pour la retraite. Mais ce qu'ils oublient toujours, c'est de faire des projets pour l'après-retraite, quand ils ne seront plus là, quand ils seront dans l'autre monde, après leur mort. Nous ne sommes pas encouragés, la Bible ne nous encourage pas à rêver d'une retraite faite de farniente sous les tropiques. La Bible nous encourage à rêver d'une après-retraite faite de farniente spirituelle sous des tropiques célestes. C'est ça ce à quoi la Bible nous encourage. Et le verset 6 nous montre que, de même que le mariage n'est pas une assurance tout risque contre la convoitise sexuelle, et je pense qu'on pourrait tous être témoins de cet aspect-là, de même, l'âge, la maturité, n'est pas une assurance tout risque contre la convoitise et contre le péché dans nos vies. En prenant de l'âge, la lutte contre le péché se poursuit dans nos vies. Et nous avons toujours autant besoin de grâce de Dieu et autant besoin de faire des choix radicaux pour suivre Christ, pour obéir à Christ, qu'on soit à la retraite, qu'on soit actif, qu'on soit étudiant. Notre âge ne change rien à cela. Peut-être qu'on gagne en maturité, en compréhension de qui est Dieu, mais la lutte contre les péchés se poursuit. La lutte pour avoir des choix de vie radicaux se poursuit, quelle que soit notre situation de vie, quelle que soit notre situation professionnelle. Un peu plus loin, verset 9, il est dit, « Pour être inscrite sur la liste des veuves assistées par l'Église, une femme doit être au moins âgée de 60 ans et avoir été une épouse fidèle à son mari. Elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, laver les pieds des membres du peuple saint, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. » Les questions ici d'une liste de veuves. La version Semeur que nous utilisons pour cette série de prédications traduit par la liste des veuves assistées par l'Église. Mais en fait, le texte original est plus succinct. Il écrit simplement d'être inscrite sur une liste, sans préciser vraiment de quelle liste il s'agit, de quoi il s'agit. Et pour plusieurs commentateurs que je rejoins personnellement, cette liste ne fait pas référence aux veuves ayant droit à un soutien financier, parce qu'en fait, c'était vrai pour toutes les veuves qui étaient sans soutien familial. L'Église se devait de soutenir ces veuves-là. Mais plutôt, cette liste fait plutôt référence à celles qui remplissaient des conditions spécifiques pour être investies dans un ministère particulier, dans un service particulier, au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église. Il semble qu'au 1er siècle, certaines veuves avaient un rôle spécifique de soutien, d'aide au sein de l'Église. Des sources extra-bibliques aussi témoignent qu'il existait des groupes de veuves qui avaient dans l'Église primitive un ministère spécifique auprès des femmes, auprès des enfants à ce moment-là. Et parmi elles, parmi ces veuves-là, certaines recevaient un soutien de la part de l'Église, tandis que d'autres avaient des ressources personnelles. Mais la liste dont il est question ici, moi je pense, est plus une liste de personnes qui avaient un ministère particulier au sein de l'Assemblée. Et pour faire partie de ce groupe, une veuve devait remplir trois conditions principales, qu'on retrouve donc au verset 9 et 10. Première condition, avoir au moins 60 ans. À cet âge-là, les femmes avaient terminé d'élever leurs enfants, disposaient de temps et de la maturité nécessaire pour servir l'Église. Ces femmes étaient dégagées aussi de tout devoir domestique envers leur conjoint, envers leur famille, pour se consacrer pleinement à l'Église. Deuxième condition, avoir été une épouse fidèle. Dans une traduction plus littérale, la femme d'un seul mari. Il s'agit de la même formulation qui était demandée pour les anciens, au chapitre 3, verset 2, ainsi que pour les diacres, au chapitre 3, verset 12. Il s'agit tout simplement d'une femme qui a fait preuve de pureté dans sa vie de couple. Et troisième et dernière condition, pour faire partie de cette liste, c'est être connu pour ses œuvres bonnes. Il y a quatre exemples d'œuvres bonnes qui sont données, démontrant une attitude d'une humble servante au sein de l'Église. Ces quatre œuvres spécifiques, c'est le fait d'avoir bien élevé ses enfants, d'avoir ouvert sa maison aux étrangers, d'avoir lavé les pieds des membres du peuple de saints et d'avoir secouru les malheureux. C'est un témoignage de vie, tout simplement. Cette liste de veuves qui avaient un service particulier au sein de l'Église d'Éphèse nous indique en tout cas une vérité très forte. Cette vérité, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'âge pour servir dans l'Église. Il n'y a pas d'âge pour servir dans l'Église. La semaine dernière, Raph nous a partagé le fait que des jeunes pouvaient être des modèles de vie pieuse dans bien des domaines, et il avait parfaitement raison. Notre texte de ce jour nous donne en quelque sorte le pendant de cette affirmation. Si des jeunes peuvent être des modèles de vie pieuse, des plus vieux, des plus âgés peuvent aussi être de leur côté des modèles de serviteurs malgré leur âge avancé. Ce texte nous montre que même à 60 ans et plus, on peut encore donner pour l'Église. On est encore appelé au service dans l'Église. Dans notre société, l'idée de la vieillesse n'est pas forcément très positive, on va dire. On pense parfois à quelqu'un d'affaibli, voire même à un poids social, financier, parfois, malheureusement. La Bible, elle va à l'encontre de cette idée et au contraire nous offre plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont continué à être consacrés à Dieu malgré leur âge avancé. Moïse et Aaron, vous vous souvenez à quel âge ils ont été appelés pour aller délivrer le peuple d'Israël ? Moïse avait 80 ans, Aaron 3 ans de plus, 83 ans. Josué, il est mort à 110 ans. Il a passé les 30 dernières années de sa vie à faire quoi ? À conquérir le pays promis, à être le chef de l'armée. Daniel, vous savez à quel âge il a dû affronter les lions ? 80 ans. Anne, la prophétesse, a pu voir Jésus nouveau-né à 84 ans, alors qu'elle, il est dit dans le texte, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Le service est toujours possible quand on est plus âgé. Alors certes, le service évolue clairement avec l'âge qui augmente et souvent les forces qui diminuent. C'est une réalité physique. Mais cela ne veut pas dire que plus aucun service n'est possible. Ce service peut se traduire de multiples manières. Par une vie de prière fervente, comme on le voit dans le texte. Un don généreux peut-être. Un mot d'encouragement. Ou encore un conseil avisé. Il y a plusieurs manières de servir. Et ce type de service n'est pas moins précieux pour l'Église que le temps que d'autres membres qui sont encore pleins de force peuvent consacrer à des activités plus visibles. Le service qu'une personne plus âgée, qui a moins de force, à travers la prière, à travers un conseil, à travers un encouragement, est tout aussi précieux aux yeux de Dieu que le service de quelqu'un qui a plus de force, qui est encore en pleine force de l'âge, peut faire dans l'assemblée. Ce service a la même valeur. À ce propos, je vous cite juste une parole de Victor Hugo qui, je trouve, affirme cette idée d'une très jolie manière. Il dit « Il y a du feu dans les yeux des jeunes gens, mais de la lumière dans le regard des vieillards. Il y a du feu dans les yeux des jeunes gens, mais de la lumière dans le regard des vieillards. » Et nous avons autant besoin des forces des plus jeunes, de leur tempérament de feu, d'une certaine manière, que de l'attitude peut-être plus posée des plus âgés, mais qui donnent leur lumière dans telle ou telle situation. Les deux sont nécessaires dans une église, dans une assemblée. Paul termine ce passage en évoquant deux raisons principales pour ne pas engager des veuves plus jeunes dans cette liste spécifique, et donc dans ce rôle spécifique dans l'assemblée d'Éphèse. D'abord, le risque de rompre son engagement. Versets 11 et 12, il dit « Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptent pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ, alors elles veulent se remarier, et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. » Des veuves plus jeunes risquaient de prendre cet engagement dans l'Église, de s'investir pleinement dans l'Église, et finalement de ne pas le tenir pour pouvoir se remarier, et donc ensuite de se sentir coupable d'avoir pas tenu l'engagement qu'elles avaient fait devant l'Église. Il faut bien comprendre que la situation d'une veuve seule n'est pas plus spirituelle que la situation d'une veuve remariée. Mais cette liste-là comprenait uniquement des veuves qui étaient entièrement consacrées à l'Église, et dans ce cadre-là, étaient donc prêtes à ne plus jamais se remarier pour consacrer le reste de leur vie à l'Église, à travers la prière, à travers des services. La deuxième raison pour laquelle Paul veut que des plus jeunes veuves ne soient pas dans cette liste, c'est que, tout simplement, ces plus jeunes veuves risquent de ne pas être à la hauteur de leur engagement. Au verset 13, « Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent de leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. » Cette seconde raison invoquée par Paul contre l'engagement des jeunes veuves dans ce service spécifique, c'est le risque qu'au lieu de se rendre utile, elles risquent plutôt de passer leur temps à s'occuper des affaires des autres et à colporter des ragots. Et pour le ministère d'aide, de soutien auquel ces veuves étaient appelées, particulier, il fallait peut-être une maturité spirituelle, une expérience de la vie qu'une veuve plus jeune n'avait pas forcément. Et c'est dans ce cadre-là que Paul met des limites. Paul termine en expliquant, au verset 14, qu'il est préférable qu'une jeune veuve se remarie pour vivre une vie de couple et une vie de famille épanouie, sans que cela soit une obligation, bien entendu. Et encore une fois, aucune situation familiale n'est plus spirituelle qu'une autre. Mais c'est la manière dont on vit la situation familiale dans laquelle on est qui est spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis célibataire, marié ou veuf que je suis plus spirituel. Mais c'est parce que je vis spirituellement ma situation de célibataire, de marié, de veuf, que je suis dans les voies de Dieu. Et ça, il faut bien le saisir aussi. Pour conclure, nous avons vu ensemble que ce texte nous décrit l'Église comme une famille solidaire. Mais au final, qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies de tellement important au point de nous inciter à ce genre de solidarité? Pourquoi Dieu veut cette solidarité-là? Je suis persuadé que seuls ceux qui ont bien saisi, intégré la réponse à cette question peuvent vivre pleinement cette solidarité. Et voilà la réponse à cette question. Alors que nous étions tous dans une situation précaire et même une situation désespérée, Dieu s'est préoccupé de nous. Et mieux encore, Dieu s'est montré solidaire de chacun d'entre nous. Notre Dieu s'est montré incroyablement généreux dans le but de pourvoir à notre besoin le plus profond. Il n'a pas juste dépensé une fortune. Il a fait bien mieux. Il a donné pour chacun d'entre nous ce qu'il a de plus précieux à ses yeux, son propre Fils Jésus-Christ. Il a donné la vie de son Fils unique, Christ sur la croix, afin de nous libérer du poids de nos fautes et de nous offrir la vie éternelle. Et Dieu nous montre là l'exemple ultime de ce qu'est la solidarité. L'exemple par excellence de ce qu'est la solidarité. Il s'est montré solidaire de nous comme personne. Soyons reconnaissants pour la solidarité dont Dieu a fait preuve à notre égard. Une solidarité inimaginable. Et cherchons aujourd'hui, dans notre assemblée, dans notre vie d'église, à imiter cette même solidarité de Dieu avec nous, avec notre famille proche d'abord dans un premier temps, bien entendu, et aussi, par extension, au sein de l'Assemblée. Que Dieu parle à nos cœurs, prenons un temps de silence pour réfléchir à cette notion. Est-ce que je suis solidaire de ma famille dans la chair? Est-ce que je suis solidaire de ma famille spirituelle? Est-ce que je me rends compte de la solidarité avec laquelle Dieu a pris pour moi? Amen.